Chapitre 33. Les bénédictions de Moïse. Comparaison avec celle de Jacob. Et c'est ici la bénédiction dont Moïse, homme de Dieu, bénit les fils d'Israël avant sa mort. Verset 1. Il est intéressant et consolant de ne voir que bénédiction sans mélange dans les dernières paroles du législateur. Nous nous sommes arrêtés sur les allocutions diverses, les avertissements solennels et pressants que Moïse a adressés à la congrégation d'Israël. Nous avons médité sur ce merveilleux cantique, dans lequel nous avons entendu tour à tour l'expression de la grâce et du gouvernement. Ici, ce ne sont que des paroles de bénédiction et de consolation, débordant du cœur même du Dieu d'Israël, communiquant ses propres pensées d'amour envers son peuple et nous laissant entrevoir son glorieux avenir. Il y a une différence bien marquée entre ces dernières paroles de Moïse et celles que Jacob exprime dans le chapitre 49 de la Genèse. Jacob rappelle les actes de ses fils, actes souvent tristes et humiliants. Au contraire, Moïse présente les actes de la grâce divine en eux ou envers eux. Les méchantes actions de Ruben, de Siméon et de Lévi sont rapportées par Jacob, mais entièrement omises par Moïse. Jacob a en vue ses fils dans leur histoire personnelle et Moïse dans leur relation d'alliance avec l'Éternel. Jacob montre les manquements de l'homme, ses infirmités et ses péchés. Moïse fait ressortir la fidélité, la bonté et les compassions de Dieu. Ses conseils, ses bénédictions et sa gloire sont au-dessus de tous les manquements de l'homme, de son péché et de sa folie. La volonté de Dieu, à la fin, s'accomplira tout entière. Israël et les nations seront alors pleinement bénis et se réjouiront ensemble de la riche bonté de Dieu. Ils proclameront sa louange d'une mer à l'autre mer et depuis le fleuve jusqu'au bout de la terre. Voyez Psaume 72, verset 8. Les bénédictions de chaque tribu. Nous ne ferons guère que citer les diverses bénédictions des tribus. Elles sont remplies de précieux enseignements. Et il dit, « L'Éternel est venu de Sinaï, et il s'est levé pour eux de Séhir. Il a resplendi de la montagne de Paran, et est venu des saintes myriades. De sa droite sortit une loi de feu pour eux. Oui, il aime les peuples, ou les tribus. Tous ses saints sont dans ta main, et ils se tiennent à tes pieds. Ils reçoivent tes paroles. Moïse nous a commandé une loi, héritage de la congrégation de Jacob. Et il a été roi en Jeshurun, quand les chefs du peuple se réunirent ensemble avec les tribus d'Israël. Que Ruben vive et ne meure pas, et que ses hommes soient en petit nombre. » Versets 2 à 6. Rien n'est rappelé ici du peu de fermeté de Ruben. Rien de son péché. La grâce domine. Les bénédictions découlent en riche abondance du cœur aimant de celui qui prend plaisir à bénir et à s'entourer de cœurs remplis du sentiment de sa bonté. Et ceci pour Judas. Et il dit, « Éternel, écoute la voix de Judas, et amène-le à son peuple, qu'il combatte de ses mains pour lui, et sois-lui en aide contre ses ennemis. » Verset 7. Judas est l'origine de la lignée royale. Notre Seigneur a surgi de Judas. Hébreux 7, verset 14. On voit d'une manière merveilleuse comment la grâce divine s'élève au-dessus du péché de l'homme et triomphe des circonstances qui révèlent l'absolue faiblesse de l'homme. Judas engendra Phares et Zara de Tamar. Matthieu 1, verset 3. Qui, sinon le Saint-Esprit, aurait écrit ces mots? Quelle main humaine aurait introduit Tamar dans la généalogie de Jésus-Christ? Pas une seule. Le cachet de Dieu est empreint sur chaque verset du Saint-Volume, du commencement à la fin. Jacob dit, « Toi, Judas, tes frères te loueront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu es monté d'auprès de la proie, mon fils. Il se courbe, il se couche comme un lion et comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne se retirera point de Judas, ni un législateur d'entre ses pieds. Jusqu'à ce que Shiloh vienne, et à lui sera l'obéissance des peuples. Il attache à la vigne son anon, et au cep excellent le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Ses yeux sont rouges de vin et ses dents blanches de lait. Genèse 49, versets 8 à 12. Et dans le dernier livre des Écritures, nous lisons « Et je vis dans la droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit au-dedans et sur le revers, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant proclamant à haute voix « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni au-dessous de la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et moi je pleurais fort, parce que nul n'était trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas. Voici, le lion qui est de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait là comme immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Apocalypse 5, versets 1 à 6. Combien la tribu de Juda est favorisée? Assurément. Être dans la lignée généalogique de laquelle notre Seigneur est issu, c'est un grand honneur. Et néanmoins, nous savons, car notre Seigneur lui-même nous l'a dit, que c'est un privilège encore bien plus élevé d'entendre la parole de Dieu et de la garder. Matthieu 12, versets 46 à 50. Faire la volonté de Dieu et serrer ses commandements dans nos cœurs nous amène moralement plus près de Christ que le fait même d'être de sa parenté selon la chair. Et de Lévi, il dit, tes Thummim, perfection, et tes Urim, lumière, sont à l'homme de ta bonté, que tu as éprouvé à Massa, et avec lequel tu as contesté aux eaux de Mériba, qui dit de son père et de sa mère, je ne l'ai point vu. Et qui n'a pas reconnu ses frères et n'a pas connu ses fils, car ils ont gardé tes paroles et observé ton alliance. Ils enseigneront tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettront l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Éternel, bénis sa force, et que l'œuvre de ses mains te soit agréable. Brise les reins de ceux qui s'élèvent contre lui et de ceux qui le haïssent, en sorte qu'il ne puisse plus se relever. Versets 8 à 11. Le lecteur remarquera que Siméon est omis ici, quoique en Genèse 49, il soit intimement associé à Lévi. Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives ont été des instruments de violence. Mon âme, n'entre pas dans leurs conseils secrets. Ma gloire, ne t'unis pas à leur assemblée. Car dans leur colère ils ont tué des hommes, et pour leur plaisir ils ont coupé les jarrets du taureau. Maudite soit leur colère, car elle a été violente, et leur furie, car elle a été cruelle. Je les diviserai en Jacob, et je les disperserai en Israël. Genèse 49, versets 5 à 7. En comparant ces passages, nous voyons d'une part la responsabilité de l'homme, et d'autre part la souveraineté de Dieu. Nous y voyons l'homme naturel et ses actes, mais aussi la grâce et ses fruits. Jacob considère Siméon et Lévi liés l'un à l'autre par leur naissance et reproduisant le caractère et les voies de l'homme naturel. Quant à ce qui les concerne individuellement, tous deux méritaient également la malédiction. Mais en Lévi, nous voyons le triomphe de la grâce souveraine. Par cette grâce, il fut rendu capable, au jour du veau d'or, de ceindre son épée pour la gloire du Dieu d'Israël. Et Moïse se tint à la porte du camp et dit « À moi quiconque est pour l'Éternel !» Et tous les fils de Lévi se rassemblèrent vers lui. Et il leur dit, « Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun mette son épée sur sa cuisse, passez et revenez d'une porte à l'autre dans le camp, et que chacun de vous tue son frère, et chacun son compagnon, et chacun son intime ami. » Et les fils de Lévi firent selon la parole de Moïse. Et il tomba d'entre le peuple, ce jour-là, environ 3 000 hommes. Et Moïse dit, « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, chacun dans son fils et dans son frère, afin de faire venir aujourd'hui sur vous une bénédiction. » Exode 32, versets 26 à 29. Où était Siméon dans cette circonstance? Lui que nous voyons associé à Lévi, au jour de la volonté propre, de la colère et de la cruauté, Pourquoi ne l'est-il plus au jour où il fallait se montrer décidé pour l'Éternel? Prêt à suivre son frère pour venger une insulte faite à la famille, pourquoi n'était-il pas prêt aussi pour défendre l'honneur dû à Dieu, alors qu'il était outragé par l'acte d'idolâtrie de la congrégation entière? L'appel de Moïse s'adressait à toute la congrégation. Lévi seul y répondit, et c'est lui qui fut béni. Avoir soutenu la cause de Dieu dans les jours du veau d'or lui valut l'honneur de la sacrificature, la dignité la plus élevée qui ait pu lui être conférée. Quant à Siméon, Dieu a jugé bon d'omettre son nom de ce chapitre. Il est souverain. Il fait ce qu'il lui plaît sans avoir à rendre compte à personne de ses voies. Pour plus de détails sur la tribu de Lévi, nous renvoyons le lecteur aux notes sur l'Exode, chapitre 32, ainsi qu'aux notes sur les Nombres, chapitres 3, 4 et 8. De Benjamin, il dit, « Le bien-aimé de l'Éternel, il habitera en sécurité auprès de lui, l'Éternel le couvrira tout le jour, et il habitera entre ses épaules. » Verset 12. Heureuse place pour Benjamin, comme aussi pour tout enfant de Dieu. Combien est précieuse cette pensée de pouvoir demeurer en toute sécurité dans la présence divine, dans une proximité consciente de notre fidèle berger, abrité jour et nuit sous ses ailes protectrices. Que le Seigneur nous donne de faire l'expérience de la valeur d'une profonde intimité personnelle avec lui. Voilà ce dont on a si impérieusement besoin, en ces jours où l'on voit tant de connaissances intellectuelles de la vérité, mais si peu de connaissances du cœur et de vraie appréciation de Christ. Et de Joseph il dit, « Son pays soit béni par l'Éternel de ce qu'il y a de plus précieux au ciel, de la rosée et de ce qui vient des profondeurs qui gisent en bas, et du plus précieux des produits du soleil et du plus précieux des produits des mois et de ce qui croît sur le sommet des montagnes d'ancienneté et du plus précieux des collines éternelles et du plus précieux de la terre et de la plénitude. Et que la faveur de celui qui demeurait dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête de celui qui a été mis à part de ses frères. Sa magnificence est comme le premier-né de son taureau, et ses cornes sont comme des cornes de buffle. Avec elles, il poussera les peuples ensemble jusqu'au bout de la terre. Ce sont les myriades d'Éphraïm, et ce sont les milliers de Manassé. » Versets 13 à 17. Joseph est un type très remarquable de Christ. C'est ce que nous avons vu dans nos notes sur la Genèse. Ici, Moïse fait particulièrement ressortir le fait que Joseph a été séparé de ses frères. Il a été rejeté et mis dans une fosse. Il a passé en figure par les eaux profondes de la mort et est ainsi parvenu à une position de dignité et de gloire. Il a été retiré du fond de la prison pour être gouverneur du pays d'Égypte et est devenu le protecteur et le soutien de ses frères. Il a dû goûter l'amertume de la mort avant d'entrer dans la sphère de la gloire. Type frappant de celui qui a été cloué à la croix, mis dans le tombeau, et qui siège maintenant sur le trône de la majesté dans le ciel. On ne peut qu'être frappé en voyant l'abondance des bénédictions prononcées sur Joseph, par Moïse, dans notre chapitre, et par Jacob, dans le 49e de la Genèse. Il y a quelque chose de particulièrement beau dans les expressions de Jacob. Joseph est une branche qui porte du fruit, une branche qui porte du fruit près d'une fontaine. Ses rameaux poussent par-dessus la muraille. Les archers l'ont provoqué amèrement et ont tiré contre lui, et l'ont haï. Mais son arc est demeuré ferme, et les bras de ses mains sont souples par les mains du puissant de Jacob. De là est le berger, la pierre d'Israël, du Dieu de ton père. Et il t'aidera. Et du Tout-Puissant, et il te bénira, des bénédictions des cieux d'en haut, des bénédictions de l'abîme qui est en bas, des bénédictions des mamelles et de la matrice. Les bénédictions de ton Père surpassent les bénédictions de mes ancêtres jusqu'au bout des collines éternelles. Elles seront sur la tête de Joseph et sur le sommet de la tête de celui qui a été mis à part de ses frères. Genèse 49, versets 22 à 26. Quelle suite magnifique de bénédictions! Et toutes découlent des souffrances de Joseph et sont basées sur elles. Il est inutile d'ajouter que ces bénédictions se réaliseront bientôt pour Israël. Les souffrances de Christ, le vrai Joseph, formeront le fondement impérissable des bénédictions futures de ses frères au pays de Canaan. Et non seulement cela, mais leurs flots profonds et abondants couleront de ce pays et iront rafraîchir la terre entière. Et il arrivera, en ce jour-là, que des eaux vives sortiront de Jérusalem. Zacharie 14, verset 8. Quelle brillante perspective pour Jérusalem, pour le pays d'Israël et pour toute la terre. Et de Zabulon, il dit « Réjouis-toi, Zabulon, en ta sortie, et toi, Issacar, dans tes tentes. Ils appelleront les peuples à la montagne, là ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance des mers et les trésors cachés du sable. » Versets 18 et 19. Zabulon doit se réjouir en sa sortie, et Issacar en restant dans ses tentes. Il y aura joie au dehors et au dedans. Il y aura aussi une puissance agissant envers d'autres, appelant les peuples à la montagne de l'Éternel pour offrir des sacrifices de justice. Tout cela est basé sur le fait qu'eux-mêmes suceront l'abondance des mers et les trésors cachés. Il en est toujours ainsi en principe. Notre privilège constant est de nous réjouir dans le Seigneur, quoi qu'il en soit, et de puiser aux sources éternelles des trésors cachés qui se trouvent en lui-même. Alors seulement nous serons dans l'état d'âme convenable pour en appeler d'autres à voir combien le Seigneur est bon. Et non seulement cela, mais nous pourrons présenter à Dieu ces sacrifices de justice qui lui sont agréables. Et de Gad, il dit « Béni soit celui qui élargit Gad. Il habite comme une lionne, et il déchire le bras, même le sommet de la tête. Et il s'est choisi la première partie du pays, car là était réservée la part du législateur, et il est allé avec les chefs du peuple, et il a accompli avec Israël la justice de l'Éternel et ses jugements. » Et de Dan, il dit « Dan est un jeune lion, il s'élance de Bazan. » Et de Nephtali, il dit « Nephtali, rassasié de faveur et comblé de la bénédiction de l'Éternel, possède la mer et le Darom. » Et d'Azer, il dit « Azer sera béni en fils, il sera agréable à ses frères, et il trempera son pied dans l'huile. Tes verrous seront de fer et d'airain, et ton repos comme tes jours. Nul n'est comme le Dieu de Jeshurun, qui est porté sur les cieux à ton secours et sur les nuées dans sa majesté. Le Dieu d'ancienneté est ta demeure, et au-dessous de toi sont les bras éternels. Il chasse l'ennemi devant toi, et il dit « Détruis ». Et Israël habitera en sécurité, la source de Jacob à part, dans un pays de froment et de mou, et ses cieux distilleront la rosée. Tu es bienheureux, Israël. Qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire? Tes ennemis dissimuleront devant toi, et toi, tu marcheras sur leurs lieux élevés. Versets 20 à 29. Quelle grâce respirent ces dernières lignes de notre chapitre! Les bénédictions qu'il renferme, comme le cantique du chapitre 32, commencent et se terminent avec Dieu et avec ses voies merveilleuses envers Israël. Cette magnifique conclusion du Deutéronome est rafraîchissante au-delà de toute expression. La grâce et la gloire y brillent d'un éclat tout particulier. Dieu sera encore glorifié en Israël, et Israël sera béni pleinement et à toujours en Dieu. Rien ne peut y mettre obstacle. Les dons et l'appel de Dieu sont sans repentir. Chaque mot des précieuses promesses faites à Israël s'accomplira. Les dernières paroles du législateur le témoignent de la manière la plus certaine. Les quatre derniers versets de ce chapitre suffiraient à eux seuls pour prouver d'une manière incontestable la restauration future, la bénédiction, la prééminence et la gloire des 12 tribus d'Israël dans leur propre pays. Mais le peuple de Dieu aujourd'hui peut tirer instruction, consolation et rafraîchissement des bénédictions prononcées sur Israël. Oui, Dieu en soit béni. Nous savons ce que c'est que d'être rassasié de faveur et comblé de la bénédiction de l'Éternel. Pour nous aussi, le Dieu d'ancienneté est notre demeure, et au-dessous de nous sont les bras éternels. Nous pouvons dire tout cela, et beaucoup plus encore. Plus qu'Israël n'a dit ou ne dira jamais. Les bénédictions et les privilèges de l'Église sont célestes et spirituels, mais cela ne nous empêche pas de trouver des consolations dans les promesses faites à Israël.